Voilà, bonjour Père, bienvenue sur Radio Maria France.
Bonjour à tous et à toutes. Il est né à Strasbourg, l'année des apparitions de Lourdes. Il meurt au Sahara durant la Première Guerre mondiale. Vous avez tous entendu parler de Charles de Foucault, ce bienheureux qui sera bientôt canonisé. Et nous allons avoir une dizaine d'émissions pour le redécouvrir, puisque j'imagine que vous connaissez à grands traits son histoire, redécouvrir sa figure historique, sa figure spirituelle. Et pour cela, Radio Maria a demandé à l'abbaye de la Grâce d'assurer ces émissions et mes supérieurs m'ont désigné pour le faire. Donc, je suis chanoine régulier de Saint-Augustin à l'abbaye Sainte-Marie de la Grâce dans l'Aude. Et comme historien et théologien, j'ai pu donner une trentaine ou quarantaine de conférences sur Charles de Foucault dans le passé. Et j'ai donc été désigné pour cette série d'émissions qui aura un but assez clair. Et ce but, ce n'est pas Charles de Foucault. Ce but, c'est au travers de Charles d'admirer et d'imiter évidemment un saint pour mieux nous rapprocher du Christ. Vous connaissez peut-être à Bordeaux, et les Bordelais qui nous écoutent l'ont peut-être en mémoire, et vous pourrez la regarder sur Internet, une très belle peinture de 1927 de Maurice Rogano qui est exposée à l'église Notre-Dame et qui montre Sainte Thérèse l'Enfant Jésus effeuillant des roses qui tombent sur le sol. Juste au-dessus se tient la Vierge Marie debout et elle porte dans ses bras l'enfant Jésus qui, les bras lui-même levés, effeuille les roses qui tombent donc par l'intermédiaire de la Vierge Marie dans les mains de Thérèse et qui tombent jusqu'à nous. Alors on n'est pas complètement hors sujet puisque vous savez peut-être que la petite Thérèse a vécu sa grande conversion à la fin de l'année 1886, exactement comme Charles de Foucault. Et cette peinture de l'église Notre-Dame de Bordeaux nous rappelle bien la place des saints dans l'histoire. Tout vient du Christ et le Christ est là pour nous conduire au Père. Tout passe par les mains de la Vierge Marie et les saints ont un rôle magnifique, mais évidemment de médiateur second dans l'unique médiation du Christ. Et comme exemple de sainteté pour nous rappeler la sainteté du Père. Et donc nous allons essayer d'admirer la beauté d'un saint. Et je vous rappelle un tout petit peu, puisque on pourrait faire, hélas, parfois donner des bâtons pour se faire battre à nos frères protestants ou autres, en donnant trop de place aux saints. Je vous rappelle la juste et grande place qu'ont les saints dans la foi catholique en vous relisant le numéro 828 du catéchisme de l'Église catholique. Le catéchisme nous rappelle qu'en canonisant certains fidèles, comme Charles de Foucault bientôt, c'est-à-dire en proclamant solennellement que ces fidèles ont pratiqué héroïquement les vertus, et on va le voir au fil des émissions, et vécu dans la fidélité à la grâce de Dieu, l'Église reconnaît la puissance de l'Esprit de sainteté qui en elle, et elle soutient l'espérance des fidèles en les leur donnant comme modèle et intercesseur. Et donc nous allons voir au fil de ces émissions combien Charles est vraiment un modèle pour chacun d'entre nous, quel que soit notre état de vie, nous soyons religieux comme lui. J'imagine qu'il n'y a pas beaucoup d'ascètes en plein désert qui sont en train de m'écouter, que les mères de famille, que les pères de famille, que les étudiants, que les personnes âgées en EHPAD, que les consacrés peut-être qui m'écoutent, puissent se reconnaître par tel ou tel détail dans la vie de l'ermite du Sahara. Et puis comme intercesseur qu'il a pour chacun d'entre nous, pourra vraiment jouer un rôle magnifique. Je poursuis le catéchisme. Les saints et les saintes ont toujours été source et origine de renouvellement dans les moments les plus difficiles de l'histoire de l'Église. Et là, ça tombe bien, puisque nous vivons évidemment avec la Covid, avec la crise économique, avec les troubles sociaux, une période qui n'est pas des plus simples et qui pourrait parfois faire manquer d'espérance certains. Et donc nous allons, en contemplant la beauté de Charles, essayer de grandir à cette lumière notre vertu d'espérance. En effet, poursuit le catéchisme, la sainteté est la source secrète et la mesure infaillible de son activité apostolique et de son élan missionnaire. Autrement dit, toutes ces émissions sur Charles n'auraient pas un grand intérêt si elles ne nous apprenaient pas à être davantage apôtres et missionnaires autour de nous. Un petit peu plus loin, au numéro 2683, le catéchisme rappelle les témoins qui nous ont précédés dans le royaume, donc comme Charles de Foucault, spécialement ceux que l'Église reconnaît comme saints, participent à la tradition vivante de la prière par le modèle de leur vie, par la transmission de leurs écrits, et on va voir que Charles de Foucault a énormément écrit, ce qui a d'ailleurs pas simplifié le procès de béatification, parce qu'il a fallu éplucher des milliers et des milliers de pages, et par leur prière aujourd'hui. Puisqu'il est évident que Charles, qui est aujourd'hui dans la lumière, c'est sûr puisqu'il est béatifié, eh bien, intercède pour nous et prie pour nous. Il contemple Dieu, poursuit le catéchisme, il le loue et ne cesse pas de prendre soin de ceux qu'ils ont laissés sur la terre. Alors évidemment, en premier lieu, ceux qui suivent la spiritualité du bienheureux Charles Foucault, ils sont des milliers dans le monde, la suivre en ayant adapté sa règle, en l'ayant adapté parce que strictement, elle est un petit peu invivable, et il a un peu tué tous ses disciples, on va le voir au fil des émissions, mais en s'en inspirant très largement. Et ils sont très nombreux dans plusieurs congrégations, on va en parler. En entrant dans la joie de leur maître, poursuit le catéchisme, ils ont été établis sur beaucoup. Leur intercession est leur plus haut service du dessein de Dieu. Nous pouvons et devons les prier d'intercéder pour nous et pour le monde entier. Et pour bien les prier, il faut les connaître. Et pour les connaître, nous allons donc avoir 10 émissions. Vous les retrouverez sur le programme les différentes dates de Radio Maria, mais donc aujourd'hui nous allons commencer par la fin, pas commencer par le commencement, commencer par la fin, commencer par ce qui devrait intervenir assez vite, à savoir la canonisation de Charles, et on va évoquer rapidement le procès et surtout le miracle qui a valu à Charles d'être bientôt sur les autels comme saint. Le 21 octobre prochain, le 18 novembre et le 16 décembre et le 20 janvier, dans les quatre prochaines émissions, nous traiterons la vie très ample du non-croyant épicurien et jouisseur qu'il a été, de l'explorateur du Maroc, de l'ermite à Nazareth, et puis évidemment du missionnaire et contemplatif du Sahara. Le 17 février et le 17 mars, dans les 6e et 7e émissions, nous travaillerons son lien avec les musulmans, son rôle et son message très beau pour nous apprendre à évangéliser, pour être apôtres des musulmans si nombreux autour de nous. Dans les deux émissions qui suivront, le 21 avril et le 19 mai, nous parlerons de sa vie mariale. C'est un aspect qui m'est très cher et qui a été un petit peu négligé, me semble-t-il, par pas mal de commentateurs. Et nous allons voir que la mariologie de Charles Foucault est extrêmement riche. Et puis le 16 juin, on sera donc pas très loin de la fête Dieu, nous traiterons de sa dévotion eucharistique qui a évidemment été admirable. Donc ce ne sera pas seulement historique, ce ne sera pas seulement biographique, chronologique, mais comme vous le voyez, un petit peu thématique. Et je vais commencer, nous allons l'entendre chanter tout à l'heure, mais je vais commencer par vous donner la prière la plus belle qu'il a pu émettre et la plus célèbre, mais je vais vous la donner dans la version complète, puisque la version qui nous est la plus familière et que nous allons entendre chanter tout à l'heure est une version un petit peu simplifiée, et c'est la prière qu'il a rédigée en 1896, alors qu'il était encore à la trappe d'Agbès. Donc il était encore religieux trappiste, et en Syrie, dans cette période et cette région où il a été témoin du premier génocide arménien, dont nous venons de fêter un sinistre anniversaire, et dont la chute de Kaboul nous rappelle évidemment des heures un peu sombres. Donc Charles Foucault médite sur la dernière parole de Jésus, rapportée par l'Évangile selon saint Luc, au chapitre 23, verset 46, « Père, je remets mon âme entre tes mains ». Et donc je donne le texte original de cette méditation, et vous allez vite reconnaître les paroles qui vous sont familières. « Mon Père, je remets mon esprit entre vos mains. C'est la dernière prière de notre Maître, de notre bien-aimé. Puisse-t-elle être la nôtre, et qu'elle soit non seulement celle de notre dernier instant, mais celle de tous nos instants. Mon Père, je me remets entre vos mains. Mon Père, je me confie à vous. Mon Père, je m'abandonne à vous. Mon Père, faites de moi ce qu'il vous plaira. Quoi que vous fassiez de moi, je vous remercie. Merci de tout. Je suis prêt à tout. J'accepte tout. Je vous remercie de tout. Pourvu que votre volonté se fasse en moi, mon Dieu. Pourvu que votre volonté se fasse en toutes vos créatures, en tous vos enfants, en tous ceux que votre cœur aime. Je ne désire rien d'autre, mon Dieu. Je remets mon âme entre vos mains. Je vous la donne, mon Dieu, avec tout l'amour de mon cœur, parce que je vous aime, et que ce m'est un besoin d'amour de me donner, de me remettre en vos mains sans mesure. Je me remets entre vos mains avec une infinie confiance, car vous êtes mon Père. Charles Foucault est-il un saint? Vous allez me dire, un peu puisqu'il est béatifié, mais pas complètement puisqu'il n'est pas canonisé. Alors comment fait-on aujourd'hui pour être placé sur les autels avec les honneurs de la canonisation? Eh bien, pour faire très court, il y a trois grandes étapes. Tout d'abord, la reconnaissance de l'héroïcité des vertus. Le procès de Charles de Foucault a commencé en 1927 et une dizaine d'années donc s'était écoulée depuis la mort du moine ermite de Taman Rasset. Il a fallu lire 15 000 pages quand même saisies des écrits de Charles de Foucault, et donc tout cela a pris du temps. Il a fallu auditionner 80 témoins pour vérifier la sainteté de cet homme qui avait évidemment fasciné de son vivant énormément de personnes, l'académicien René Bazin, dont nous parlerons et dont le livre reste aujourd'hui encore absolument exceptionnel, mais aussi des musulmans, puisqu'il a impressionné beaucoup les Touareg et tous ceux qui l'ont fréquenté. Et puis évidemment, la guerre d'Algérie intervient comme une ombre sur le procès, puisque pour ne pas mettre d'huile sur le feu, en 1956, le pape Pie XII demande la suspension de la cause qui ne reprendra qu'en 1967. Donc vous reconnaissez évidemment la parenthèse de la guerre d'Algérie, et on n'a pas repris tout ça juste aux accords d'Évian en 1962, on l'a repris qu'en 1967 sous Saint Paul VI. Et il a fallu donc se demander comment on allait le canoniser ou le béatifier. Est-ce que c'était comme martyr? Est-ce que c'était comme témoin de la foi, simplement? Et dans tous les cas, travailler vraiment l'héroïcité des vertus. Et c'est le 24 avril 2001 que Saint Jean-Paul II a approuvé le décret d'héroïcité des vertus. Et donc, on pouvait parler du vénérable Charles de Foucault. Après cela, il fallait un miracle. Et c'est Mgr Bouvier, qui est prêtre du diocèse de Valence et qui était postulateur de la cause de 1990 à 2011, qui a beaucoup travaillé à la reconnaissance d'un miracle pour la béatification. Et ce miracle s'est produit grâce à la guérison miraculeuse et radicale d'une Italienne, Giovanna, d'un cancer des os en phase terminale, mortelle, donc en phase finale, absolument incurable. Et donc, première étape, il fallait que l'héroïcité des vertus, de charité, d'humilité, de chasteté, etc., soit prouvée, et donc pas simplement à un degré honnête, mais à un degré héroïque, donc supérieur à la moyenne, et un miracle intervenant après la mort. Un miracle, pour faire très court et résumer les critères donnés par le pape Benoît XIV au XVIIIe siècle et qui servent encore pour les procès de béatification, qui servent encore à Lourdes pour la reconnaissance des miracles. Et je vous invite à vous rapprocher de l'excellent docteur Alessandro De Francisis, que j'ai la chance de bien connaître, et s'il m'écoute, je le salue ici, qui dirige le Bureau médical international. Pour faire très court, il faut que la maladie soit incurable, la guérison immédiate, définitive et sans séquelles. Donc quatre conditions, maladie incurable, guérison immédiate, définitive et sans séquelles. Et donc c'est ce qui a été examiné de façon collégiale, lente, précise, avec contre-argumentaire, le fameux avocat du diable, etc., pour la reconnaissance du miracle de Giovanna permettant que le bienheureux Charles Foucault soit béatifié en 2005. Il l'a donc été sous Benoît XVI. Et il a fallu un miracle pour la canonisation, et c'est ce dont nous allons parler plus précisément maintenant. Ce miracle est intervenu il y a peu, vous en avez peut-être un petit peu entendu parler, mais il est assez merveilleux à plus d'un égard. Il a été retenu, et la canonisation va donc bientôt pouvoir intervenir. Et avant de rentrer dans le vif de ce miracle, je vous propose de le prier à nouveau avec un chant que vous connaissez tous et que nous allons entendre, qui résume donc la prière que j'ai donnée à l'instant. Et donc nous allons entendre.
mon père, je m'abandonne à toi. Fais de moi ce qu'il te plaira. Quoi que tu fasses, je te remercie. Je suis prêt à tout, j'accepte tout, car tu es mon père, je m'abandonne à toi, car tu es mon père, je me confie en toi, car tu es mon père, je m'abandonne à toi, car tu es mon père, je me confie en toi.
Voilà, chers amis auditeurs, auditrices de Radio Maria France, nous sommes en direct avec le Père Jean-Baptiste qui nous parle de Charles de Foucault pour cette première émission. Voilà, Père, je vous rends l'antenne. Voilà, Père, je vous rends l'antenne.
Voilà, donc, nous avons médité à nouveau cette belle prière qui se révélera un petit peu de fil rouge pour beaucoup de nos émissions. Et nous comprenons mieux la procédure extrêmement sérieuse de l'Église pour que Foucault soit bientôt vénéré comme un saint. Et ce miracle qui a permis qu'il soit bientôt honoré comme tel par l'Église universelle, c'est passé grâce à un Charles. Autrement dit, la chute de Charles et le miracle de Charles. C'est ce que nous allons voir. Charles sans S, c'est ce charpentier de 23 ans qui, à Saumur en 2016, a chuté accidentellement de 16 mètres de haut pour se relever quasi sauf. Et Charles, avec un S, désigne bien sûr L'ermite de Tamanrasset, né en 1858 à Strasbourg, est devenu officier de cavalerie, formé à Saumur, et qui se convertit et devint religieux. Et sans la chute terrible de Charles, sans S, Charles de Foucault ne deviendrait pas un saint pour l'Église catholique, comme le pape pourra en annoncer la date bientôt. Alors pourquoi la date n'est-elle pas encore prévue? J'ai la chance de connaître le postulateur de la cause, Monseigneur Ardura, qui est président du Conseil pontifical des sciences historiques à Rome et qui me confirmait avant-hier que le Saint-Père et le Vatican attendaient que les conditions sanitaires soient plus faciles pour que les voyages internationaux permettent un maximum de personnes à Rome. Et donc c'est dès qu'on aura un petit peu plus de lisibilité sur l'avenir que la date sera sortie, puisqu'en soi, dès l'annonce de la reconnaissance du miracle, il y a quelques mois, la date aurait pu être fixée. Et donc il a fallu une longue enquête médicale et théologique pour reconnaître que ce Charles sans S avait été protégé lors de cet accident professionnel qui aurait dû lui coûter la vie en l'immobilisant au moins définitivement, et prouver que c'est grâce à l'intercession de Charles de Foucault que ce miracle s'est réalisé. Autrement dit, que Charles est vraiment au ciel auprès de Dieu pour avoir un tel pouvoir divin qu'il puisse réaliser une opération dépassant les forces de la nature sur Terre. L'accident est intervenu le jour même du centenaire de la mort de l'ermite Charles de Foucault, assassiné le 1er décembre 1916 à Tamanrasset en Algérie. À l'issue de l'étude de ce miracle, le pape François a affirmé le 27 mai 2020 qu'il s'agissait d'un miracle dû à l'intercession spirituelle de Charles de Foucault, ce qui permettra donc sa canonisation très prochaine. Il sera fixé à une date liturgique qui n'est pas encore connue, mais qui sera probablement le 1er décembre, la date de son dies natalis, la date de sa mort. C'est, vous le savez, habituellement la coutume. Parfois c'est la translation des reliques, parfois c'est lié à une ordination sacerdotale. On verra ce qui sera fixé, mais c'est assez souvent, donc assez probablement, ce sera le 1er décembre. Donc le charpentier Charles, encore une fois sans S, c'est assez original, quant à lui, est pour l'heure protégé du monde médiatique, et il donnera en temps utile une conférence de presse pour se présenter et raconter son aventure avant l'événement romain de la canonisation. Il a aujourd'hui 28 ans, il est en parfaite santé, il est célibataire et toujours charpentier dans la même entreprise, l'entreprise Asselin. Il n'est pas baptisé ni croyant, et ça c'est très intéressant. Autrement dit, le miracle a concerné quelqu'un qu'on ne pouvait pas supposer un grand connaisseur de Charles Foucault et un grand fervent le priant déjà depuis longtemps. Et Charles Foucault était lui-même peu croyant pendant de longs mois, de longues années, eh bien, a probablement voulu toucher par ce miracle assez improbable le cœur de beaucoup d'incroyants et peut-être le cœur déjà de ce charpentier. Je vous invite à prier pour que, au travers de sa guérison physique, s'opère une véritable guérison aussi spirituelle. Donc, le charpentier Charles sans S n'est pas baptisé, ni croyant, ni lié à aucune religion. Il ne connaissait même pas l'existence de Charles Foucault au moment de l'accident. Il est très apprécié par ses collègues, comme de son entourage, comme l'explique François Asselin, le PDG de cette entreprise spécialisée dans les restaurations et en particulier les monuments historiques. Son PDG remarquait qu'il travaille bien, que c'est un garçon bien dans sa peau, bien dans sa tête, bienveillant, excellent charpentier, joyeux, optimiste, volontaire, simple et très naturel, mais qui a fait une grosse bêtise qui lui aurait pu lui coûter très cher. Donc cette entreprise avait reçu en 2016 la charge de restaurer la charpente de la chapelle de l'institution Saint-Louis, un lycée catholique de Saumur. Et c'est dans cette église élancée, bâtie à la fin du XIXe siècle, comme beaucoup d'églises en France et en particulier dans l'ouest de la France, que l'accident s'est produit le 30 novembre 2016. Au lieu d'emprunter les planchers provisoires installés au-dessus des voûtes pour sécuriser le travail de charpente, Charles a voulu couper au plus court. Voilà, on essaie de gagner un peu de temps en marchant directement sur une voûte intérieure de l'édifice. Il croyait bien faire, c'est la catastrophe. L'appareillage de pierre cède d'un coup sous ses pieds et sa chute de 15,5 mètres exactement se termine sur le montant d'un banc qui venait d'être cassé moins d'une seconde plus tôt par les blocs et par de la voûte. Autrement dit, on avait un banc sur lequel il va s'empaler et s'empaler au niveau de l'abdomen. Il se relève toutefois conscient, et là, c'est là que le miracle commence. Parce qu'imaginez une chute de 15 mètres, la puissance et la violence du choc, on va en parler dans un instant, et il s'empale, le banc lui traversant le ventre. Donc il marche une cinquantaine de mètres pour chercher des secours, bien que traversé de part en part par une pièce de bois qui empêchait de fait l'hémorragie externe. Il faut voir le bon côté des choses. Le banc ne lui est retiré du corps qu'au CHU d'Angers. J'imagine la terreur des infirmières, des aides-soignants, des chirurgiens qui ont dû faire ça. Après un transport assez rocambolesque en ambulance, le dard de bois de plus d'un mètre empêchant évidemment le voyage en hélicoptère du SAMU, pourtant dépêché sur place. En opérant, le chirurgien ne constata ni fracture ni lésion d'aucun organe vital. Aucun organe vital du jeune homme n'avait été touché. Le corps étranger, qui est donc assez violent, était pourtant brutalement passé sous les côtes, non loin du cœur et de la colonne vertébrale. Et les faits sont évidemment médicalement documentés, tous vérifiables. Et 2 semaines plus tard seulement, Charles, sans aucune séquelle, retourne au travail, impatient de reprendre son boulot sur la voûte de l'église Saint-Louis de Saumur. Donc, le chirurgien hospitalier d'Angers commente sobrement, il a eu de la chance, la plupart ayant vu évidemment que cette chance inouïe pour la médecine pouvait être un véritable miracle. Pour ça, il y a 3 étapes nécessaires. La première, c'est d'établir un lien possible entre l'issue favorable de ce grave accident et Charles Foucault. Et il se trouve que François Asselin, le chef d'entreprise, qui est connu sur plan national comme président de la Confédération des PME, la CPME, est un catholique fervent, membre de la paroisse de Saumur, qui porte justement le nom de Charles Foucault, sur le territoire de laquelle eut lieu l'accident. Il témoigne de sa foi quand on le lui demande et explique qu'au moment de l'accident, sa paroisse, où sa femme est très impliquée, priait depuis un an pour la canonisation de Charles de Foucault. Et ce type de prière est évidemment, à ce moment-là, vu comme providentiel. Et donc, il s'agissait d'une neuvaine qui était récitée pour obtenir cette guérison. Et le père Vincent Artary, le curé de la paroisse, précise que la neuvaine pour la canonisation de Charles de Foucault s'est terminée le 1er décembre, date du centenaire de sa mort, mais l'accident eut lieu en fin d'après-midi le 30, au moment où étaient priées les vêpres, qui sont canoniquement celles du 1er décembre, jour du centenaire. Donc la coïncidence est évidemment un beau hasard au sens arabe du terme, et vous savez que Charles de Foucault parlait l'arabe, et hasard signifie en arabe le doigt de Dieu. À l'annonce de l'accident, ce fut la sidération. Dès que nous avons eu connaissance de l'accident, se souvient François Asselin, nous n'avions aucune idée de son issue, nous n'avions plus que la prière que nous avons redoublée en lançant via tous nos réseaux ce que l'on appelle des chaînes de prière, suppliant Charles de Foucault, dans la soirée et la nuit, d'intercéder pour que le Charles sans S s'en sorte. On a su qu'il était sauf que le lendemain, qui est donc le jour même de la mort de Charles Foucault. Personne ne pense plus alors à l'ermite de Tamanrasset. La vie reprend et c'est en repassant la suite des événements que le PDG Asselin a l'idée de proposer quelques mois plus tard cette saisissante péripétie au discernement de l'Église, simplement comme fruit de l'intercession de Foucault. Et donc il demande l'accord au charpentier, qui accepte, avant de contacter l'évêque d'Angers, Monseigneur Emmanuel Delmas, qui est justement médecin de formation. Et donc, avec un regard à la fois canonique, mais aussi médical, le prélat ouvre une instruction canonique à l'échelon du diocèse, où 3 médecins vérifient qu'on a vraiment une guérison inexplicable médicalement, qu'on est face à un dossier incroyable, et pas seulement à un coup de chance. Ensuite, il y a une deuxième étape. L'enquête doit être transmise à Rome, à la Congrégation pour la cause des saints, sous la responsabilité d'un postulateur. Il s'agit du père Bernard Ardura, on peut dire même Monseigneur Bernard Ardura, donc de l'ordre prémontré, qui est aussi président du Conseil pontifical des sciences historiques, un petit peu l'historien du Saint-Siège. On fit d'abord travailler indépendamment, seconde étape du processus, deux médecins spécialistes de ce type de choc qui valident l'incapacité pour la médecine d'expliquer une telle issue positive pour l'accidenté, sinon une chance exceptionnelle. À l'analyse doit être confirmée ensuite par une commission de sept autres médecins, et vous doutez que tout ce petit monde a évidemment un esprit critique, pour valider le caractère scientifiquement inexplicable de ce fait. Charles, après une chute de 15,5 mètres qui a duré 1,78 secondes, fut stoppé net, empalé, alors qu'il tombait à la vitesse de 60 km/h au sol, ne pouvant pas s'en sortir sans mal après une telle décélération instantanée. Je pense que tous ceux qui m'écoutent ont assez d'esprit critique et scientifique pour reconnaître qu'on est là devant quelque chose qui dépasse les lois de la nature. Troisièmement, après cette consulta médica, le dossier est soumis à une commission de sept théologiens, troisième et dernière étape donc, qui établit le lien entre le fait médical et la possible intercession de Charles de Foucault. La foi catholique estime en effet que les saints, une fois morts et montés aux cieux, ont un pouvoir d'intercession, comme le catéchisme tout à l'heure nous le rappelait, auprès de Dieu, un pouvoir d'exemplarité et un pouvoir aussi d'intercession, en particulier lorsqu'on les prie. Et vous avez vu que aussitôt, énormément de prières à Charles de Foucault se sont élevées. Intervient alors celui qui est le promoteur de la foi, qu'on appelait autrefois joliment l'avocat du diable, et qui va chercher la petite bête, et qui va chercher les contre-expertises médicales, théologiques, psychologiques, que sais-je. Et il est précieux, évidemment, pour pas que nous soyons aveugles et que le dossier soit inattaquable par un adversaire de la foi catholique. Et c'est donc à l'issue qu'est présentée une synthèse du dossier médical et théologique, présenté à une commission de 15 cardinaux qui doit se prononcer par vote en faveur du miracle. Et ils ont voté favorablement, ce qui a permis au pape François, donc, en mai dernier, en mai 2020, donc il y a même plus d'un an, de reconnaître le miracle permettant la canonisation de Charles Foucault. Mais évidemment, en mai 2020, on était confinés, on était dans une situation un peu compliquée, donc on attend une plus grande lisibilité pour les transports internationaux, de façon à ce qu'un maximum de personnes puissent se réunir place Saint-Pierre. On avait parlé de la canonisation de Charles Foucault à Marseille, à la Toussaint prochaine. Vous vous doutez que, vu que rien n'a filtré jusqu'ici, c'est à ce jour hautement improbable. Alors, ce qui est très intéressant aussi, c'est la réaction de Charles sans S, donc du miraculé, au moment de l'accident. Il a raconté à son patron ceci. « Quand la voûte a cédé, je me suis dit, là, c'est foutu, il ne faut pas que je tombe sur les pieds ou sur la tête. Il s'est alors comme allongé, protégeant sa tête entre ses mains et en se disant, je m'abandonne. Or, vous l'avez entendu, c'est quand même incroyable, c'est exactement la prière préférée de Charles de Foucault. Je m'abandonne à toi. La prière préférée est peut-être la prière aussi la plus connue et intense de notre saint. Bien sûr, poursuit le PDG, j'aurais préféré que tout cela n'arrive pas, mais devant de tels faits, on se sent tout petit, à la fois dépassé et aimé, comme si on vivait sur terre quelque chose du ciel. Et François Asselin conclut, depuis Charles a simplement émis le désir de pouvoir rencontrer le pape François, il est évident que cela va lui être facile, et je vous invite, qui que vous soyez à m'écouter, à vivre du même saint abandon. Je ne vous souhaite pas de traverser la voûte de votre appartement ce soir, mais en tout cas de vivre au sein même de nos difficultés cette même prière d'abandon que je vais, pour conclure, réciter dans sa version courte que nous connaissons tous. « Mon Père, je m'abandonne à toi. Fais de moi ce qu'il te plaira. » Quoi que tu fasses de moi, je te remercie, je suis prêt à tout, j'accepte tout. Pourvu que ta volonté se fasse en moi, en toutes tes créatures, je ne désire rien d'autre, mon Dieu. Je remets mon âme entre tes mains, je te la donne, mon Dieu. avec tout l'amour de mon cœur, parce que je t'aime et que ce m'est un besoin d'amour de me donner, de me remettre entre tes mains sans mesure avec une infinie confiance, car tu es mon Père. Merci à tous.